Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu?
Bonjour Médic Canafi, bonjour à tous. Ça va bien et toi?
Ça va bien, chaudement, hein, depuis que la Terre n'a jamais été aussi élevée en température, depuis le 3 et 4 juillet.
Bon, écoute, on met des shorts et on croise les doigts.
Il fait chaud parce que voilà, on est en juillet. Japan Expo approche, c'est souvent le cas, hein, on crève de chaud pendant la Japan. Oui. Donc là, on est en plein dans les préparations. Retrouvez-nous, si vous nous écoutez, voilà, cette semaine, en première semaine d'écoute, bah, dès la semaine prochaine à Japan Expo. On va recevoir 8 auteurs, on va pas tous les nommer, mais il y a beaucoup de monde. 8 auteurs, 2 illustrateurs. Il va y avoir un turnover, voilà, de dédicaces, ça va être vraiment stylé.
Toute l'équipe de Sœur sera là, donc bien c'est sûr. À Villepinte par des expositions, le hall 5A, je crois. Oui. Je n'irai pas jusqu'à me rappeler le numéro du stand, mais bon. Vous devriez nous voir, on a un petit truc au plafond pour indiquer, le nom du stand.
Un petit drop, notamment on aura les deux nouveautés qui sont les livres sur Hokuto no Ken et Makoto Shinkai. On a même mis des petites éditions First Print parce que là, le livre, si vous n'êtes pas parisien, vous n'allez pas à la Japan Expo, les livres sont disponibles en librairie et sur notre site. Et sur notre site, les éditions First Print, on en aura un petit stock à la Japan, si jamais. Donc voilà, ça c'est notre actu du moment, la préparation pour la Japan Expo. Mais on n'est pas là pour parler de la Japan, on n'est pas là pour parler de Japan, c'est tout.
On est là pour parler du Japon.
Du Japon, on est là pour Red Alert. Au programme de cette semaine, nous allons parler dans un premier temps de ces jeux qui mutent et se transforment pour toucher un plus large public. Mais est-ce que les changements de ces jeux vont vers une simplification? Ça, on va le voir ensemble. Puis, dans la seconde partie de l'émission, il sera l'heure de faire un point top 10 all time, hein, ce fil rouge que je déroule depuis bientôt 2 ans. Et avec l'actu récente et la sortie de Tears of the Kingdom, je me suis dit que c'était le bon moment pour parler d'un épisode de Zelda, le meilleur à mon sens, Majora's Mask. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour, non pas sur l'émission de la semaine dernière, mais retour sur la saison dernière, la saison complète, parce que voilà, c'est le dernier épisode de la saison.
Exactement.
Fin de la saison 3.
Fin de la saison 3 déjà, ça passe très vite. Donc bon, on reviendra évidemment à la rentrée, il y aura certainement même un podcast l'été, Red Alert d'été comme vous avez l'habitude. Mais c'était une saison pleine, écoute, hein, c'est passé très vite.
T'as kiffé hein.
J'ai kiffé, je pense qu'on galère un peu moins au niveau dèche de sujet, on apprend un peu mieux gérer peut-être notre sac à chronique, comment on dit.
La sac à chronique. Néanmoins, dernier raid alerte de la saison, mais on ne vous abandonne pas pendant l'été pour ce qui est des podcasts et des émissions audio. 2 sœurs d'émission au programme, dès la semaine prochaine, pendant la Japan Expo, ben voilà, on est sur la thématique voyage au Japon, donc les 2 guides que nous vous proposons hein, sur le site sœur de voyager au Japon, ben là, il y a une sœur d'émission où on a reçu Gaël Berton, enfin, on a même enregistré chez lui. Hein.
Oui, tout à fait, donc de Kampai.fr, et on va parler un petit peu... de l'influence entre tourisme aussi, manga, jeux vidéo, et puis aussi du Japon en tant que tel. Hein. Comment ça se passe maintenant, le tourisme après le Covid? Qu'est-ce qui a pu changer ou pas?
On aura un sort d'émission sur Alien avec Marvin Montes.
Tout à fait.
On aura un Sound Teams hein, qui sera dans l'actu sur un compositeur. Voilà, Final Fantasy XVI est sorti il y a peu, je vous donne un indice. Un EX normalement, donc voilà, c'est ces formats qui parlent du jeu dans leur ensemble, un jeu récent. Donc normalement, on devrait s'enregistrer celui sur Zelda et vous le proposer fin août. Il y aura un second, peut-être en septembre, lui, sur FF16.
Ouais, le temps que toute l'équipe le termine. C'est vrai que nous, en Red Alert, on a parlé de ces 2 jeux, mais vraiment sous l'angle non-spoiler et quelque chose d'un peu plus transversal. Donc là, ce sera vraiment l'occasion de rentrer dans le fond du sujet pour des jeux qui sont quand même très très longs. Donc, on va parler de Zelda avec Ken, hein, de manière assez surprenante. Hein, et je pense qu'il est encore plus fan que nous, j'ai un peu. Enfin, oui. En tout cas que moi, parce que toi, t'aimes pas, parce que t'as,
j'aime pas,
t'as un cœur de pierre.
Et voilà. Et ce n'est pas tout. Le dernier Red Alert de la saison, mais il y aura le Red Alert de l'été.
Un classique.
L'estival. Donc qui sera diffusé la seconde semaine de août, donc vendredi 14, un petit raid alerte de l'été, voilà.
Oui, et dans le sommaire, il y aura peut-être des indices dans le top 3, si
peut-être.
J'ai bien suivi.
Restez jusqu'à la moitié de l'épisode, donc restez même jusqu'à la fin,
tant qu'à faire.
Encore mieux. Mais écoute, est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt.
Et fait, c'est à toi, tu vas nous parler de ces jeux qui se transforment, qui mutent, qui perdent de leur singularité.
Ouais, qu'est-ce que ça veut dire
hein? Ton titre me trigger, je t'avoue.
Bah pour la dernière, écoute, faut y aller. Hein, donc, on a des jeux qui dévoilent vraiment des propositions qui sont originales, ou des jeux qui montrent une identité super forte. Hein. On pourra trouver ça courageux parce qu'ils vont jusqu'au bout de leur démarche, mais c'est à double tranchant parce que tu prends le risque de t'aliéner quand même une partie du public, comme a pu le faire Death Stranding par exemple.
C'est vrai.
Donc là on avait l'identité forte, mais plein de gens ne se sont pas retrouvés dans le concept. Parfois, un miracle, cette singularité fonctionne à fond contre toute attente, avec notamment la saga des Souls, je pense qu'on en parle suffisamment, qui au fil des épisodes vraiment a converti son public à sa vision du jeu vidéo, avant d'exploser avec le carton d'Elden Ring qu'on a connu l'an dernier. Donc là, on peut dire que c'est carton plein, quoi.
Ouais.
On trouve aussi des exemples où ce sont les studios et les éditeurs eux-mêmes, en fait, qui ont décidé de changer de cap, de simplifier ou de gommer même leurs spécificités pour leur jeu ou pour une saga, hein, afin de tenter d'atteindre un nouveau public. Mmh. Et donc, c'est vraiment de ces jeux-là dont on va parler. Donc, des jeux vidéo qui régressent, on peut dire, hein, qui vont perdre en singularité ou qui se simplifient pour tenter de progresser, entre guillemets. Donc, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal et toujours pareil, hein, dans l'idée de s'ouvrir à un plus grand public. Alors, ça sera avec plus ou moins de réussite qu'on va le voir à travers 5 exemples plus ou moins récents qui appliquent ça de manière plus ou moins graduée et à chaque fois avec des objectifs différents. Donc, on va commencer tranquillou avec un exemple plutôt léger mais qui aide à comprendre le principe. C'est Detroit Become Human. Donc, voilà, vous savez, je suis obligé de parler de Detroit dans toutes les émissions de Quantic Dream. Donc, Detroit, lui, il a décidé de dévoiler un petit peu l'envers du décor. On en a parlé longtemps ici, hein, et exposer en fait les ramifications de son histoire. À savoir qu'à la fin d'une séquence de jeu, on va te dévoiler un arbre des ramifications en fait scénaristiques potentielles, et tu pourras alors découvrir ben, quel choix t'a amené sur tel embranchement, quel choix t'a conduit sur un autre, et du coup ben, t'as une vue un peu globale de ce qui aurait pu se passer de l'ensemble des possibles. Et donc là, t'as vraiment le studio qui a choisi sciemment d'inclure cette mécanique de jeu qui est extra-diégétique, donc qui te sort de la diégèse du jeu en fait, et qui du coup ben, te sort un peu de l'immersion. Et l'immersion, on sait que c'est la quête de Quantic Dream, c'est leur objectif, c'est vraiment immerger le joueur dans une histoire. Le fait que tu oublies que voilà, t'es en train de jouer à un jeu vidéo, que tu sois pris dans une aventure. Et là, t'as cette mécanique qui arrive et qui te sort d'un truc, une mécanique qui est très jeu vidéo, en fait. C'est pour ça que je trouve qu'on peut parler de légère régression, en fait. Bah, mais en fait, le but, c'est tout simplement de souligner les qualités du jeu.
Oui.
En gros, on a une écriture en embranchement. Apparemment, c'était caché, donc tu pouvais peut-être même pas t'en rendre compte. Là, on va te souligner avec du marqueur. Regarde notre méthode, regarde ce que c'est la méthode Quantic Dream.
Regarde le travail qu'il y a derrière.
Voilà, donc ils ont choisi d'exposer en pleine lumière, quitte à perdre en magie et en immersion. Mm-hmm. Alors, il y a quand même des points positifs, malgré cette régression. C'est que, clairement, ben, je viens de le dire, ça expose la démarche du studio pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et ça rajoute quelque chose d'un peu plus jeu vidéo qui peut avoir un côté ludique, de se dire, bah tiens, je vais essayer d'aller un peu voir tous les embranchements, de faire tous les choix pour essayer de remplir tout ce tableau-là, quoi. Et du coup, ça a payé, parce que Detroit, aujourd'hui, c'est le plus gros succès de Quantic Dream, et il a vendu 8 millions d'exemplaires. Donc là, chapeau, ça marche.
C'est ce que j'allais te dire. J'aurais pas dit simplification, j'aurais dit gamification. Il s'est approché plus d'un jeu vidéo classique, et comme tu l'as souligné, c'est quelque chose qui peut être aussi très positif. C'est amusant, justement, de voir les embranchements, et qui te permet de te dire, je vais le refaire, je vais essayer de découvrir les choses qui sont secrets, parce que tu sais qu'il y a des secrets, alors qu'avant, tu ne savais même pas.
Mais il y a quand même un petit retour en arrière, dans le sens où la singularité des jeux quantiques, c'était justement l'immersion à tout craint, quoi.
C'est vrai.
On va parler de Bayonetta 3 maintenant. Donc, on sait que Bayonetta, la série, ça n'a jamais été une championne des ventes niveau charts, mais t'avais quand même cette approche très pointue du beat'em up qui avait su convaincre les fans du genre, même si, dès le premier épisode, y a eu des efforts qui ont été faits sur l'accessibilité avec, par exemple, des moyens de jouer avec un seul bouton, donc c'est pas vraiment là où je veux aller. Hein. Mais pour Bayonetta 3, là, clairement, Platinum a choisi de s'inspirer d'autres jeux du studio, en fait, notamment Astral Chain, pour faire un petit peu évoluer le système de jeu au global. Donc ici, le gameplay repose sur les invocations en fait de démons que Bayonetta peut faire, donc il sera au cœur du gameplay. Et en fait, c'est que ces invocations de démons, donc c'est des grosses créatures un peu genre kaiju, et quand tu les invoques, bah, tu les contrôles. Et pendant ce temps-là, en fait, Bayonetta, elle est immobilisée parce qu'elle fait un sort d'incantation. Alors très vite, les joueurs un petit peu chevronnés, ils ont compris qu'on pouvait un peu alterner entre ces deux états, c'est-à-dire que tu vas lancer des coups avec ta créature pendant ce temps, tu peux contrôler ton personnage et puis alterner constamment entre les deux.
Oui.
T'es pas non plus figé, prisonnier, si tu te démerdes bien, tu peux quand même alterner sur les deux niveaux. Mais à mon sens, et je pense que tout le monde était plus ou moins d'accord, hein, c'est que tu restes quand même loin de l'exigence du contrôle auquel on avait l'habitude, normalement dans la licence jusqu'alors, tu vois.
Okay.
Donc en somme, on a enlevé un petit peu de contrôle et de rigueur aux joueurs pour y rajouter du spectaculaire.
Mmh.
Donc sans dire qu'on perdait complètement l'exigence inhérente à un beat'em up pur, hein, le jeu devenait quand même plus facile, plus bourrin, et aussi moins agréable, tu vois, quand t'avais ces créatures qui étaient très très lourdes, avec des combats qui étaient un petit peu laborieux, où finalement, bah, souvent, tu te contentais de faire du button mashing, donc pas très très intéressant, quoi. Donc là, on perd un petit peu l'exigence du gameplay, qui est en fait l'exigence, l'essence même de Bayonetta, quoi, qui est, on le rappelle, quand même le meilleur beat'em up de ces dernières années, hein, qui avait vraiment un peu relancé le genre. Et là, évidemment, pour cette simplification, on va dire, on peut pas mal juger l'équipe de dev, on sait que la licence, elle a jamais réussi à cartonner dans les charts, et sans le sauvetage de Nintendo, on n'aurait même certainement pas eu de deuxième épisode. Donc à ce compte-là, on peut pas leur reprocher de tenter de faire bouger la formule pour aller conquérir un nouveau public, quoi. Mais Bayonetta donc fait ce gros changement de gameplay, mais en plus de ça, t'avais aussi des changements sur la DA qui étaient un petit peu plus discutables.
Oui.
T'avais ce côté what the fuck qui était encore plus assumé. T'avais un second personnage jouable très différent qui arrivait.
Oui.
Donc vraiment là, on sentait que ben voilà, c'était un peu le dernier soubresaut pour tenter de sauver la série. Là, encore une fois, je sais pas si ça a fonctionné. On n'a pas eu tellement de retours sur les ventes. Ça a l'air d'être quand même proche des autres épisodes. Mais la sortie récente du spin-off Cereza, je sais plus quoi,
Bayonetta Origin.
Ouais, voilà. Bah, donne pas trop confiance, je trouve, justement. On sent que la série se cherche et on arrive peut-être à la fin d'un cycle, quoi.
Ouais. Ou justement, ils essayent de tout miser sur Bayonetta en lui proposant des spin-offs. Quand une série a des spin-offs, c'est que c'est une série qui a au moins un potentiel. Tu fais pas un spin-off d'une série qui en a peu. Donc peut-être qu'ils essayent de chercher des solutions.
T'as quand même un recentrage où t'essaies de modifier un peu le core gameplay du jeu.
Ouais,
ou faire évoluer vers autre chose,
c'est
quoi.
Vrai. Et comme tu dis, les Bayo, c'est un beat'em up, c'est surtout la vélocité, là où je trouve que le 3, justement, ils ont essayé d'ancrer plus les personnages dans le sol avec du poids, c'est là où je pense qu'il y a vraiment aussi un changement. Là, le Cereza Bayonetta Origin, c'est essayer de miser sur le lore et l'univers et les personnages et faire en sorte que la série existe hors de son gameplay.
Bah, ils se sont rendus compte qu'au-delà des joueurs fans de beat'em up, t'avais une frange de gens qui sont attachés justement aux personnages et au lore et ils se sont dit, bah, c'est peut-être notre moyen de notre piste pour relever un petit peu la franchise, quoi. On va parler maintenant de Redfall un petit peu. Donc on sait, Arkane Studio, hein, ils font des jeux de ouf, hein. Mais après le beau succès quand même du premier Dishonored, hein, je crois que c'était 5 millions d'exemplaires, bah, les jeux suivants ils n'ont pas forcément rencontré un succès à la hauteur de leur qualité. Donc on le rappelle, Arkane c'est vraiment les spécialistes des immersifs sim en AAA, et c'est un genre qui hélas plus trop à la mode, hein, parce que c'est un genre qui est quand même complexe, qui requiert vraiment un engagement assez profond du joueur,
qui ne vend pas
et qui est difficile aussi à communiquer, en fait. Ouais. Hein, tout bêtement, quoi. Donc on a vu Deathloop, toi, le jeu que t'avais adoré il y a 2 ans, je crois.
J'adore de ouf.
Qui avait tenté de bousculer déjà un petit peu la formule Arkane, mais là encore, là, on se rappelle la campagne de promotion, ils avaient beaucoup de mal à expliquer un petit peu le fonctionnement de leur jeu, quoi.
Oui.
Alors Deathloop avait fait quand même certaines concessions, donc notamment c'est un jeu qui pouvait s'exploiter sur son premier run, où quand tu faisais l'aventure, t'avais découvert à peu près tout ce qu'elle avait à t'offrir en termes de variation, en termes de scénario. Là où souvent les jeux précédents d'Arkane, ben tu pouvais choisir un peu une voie pour progresser et refaire une partie, hein, pour tenter d'autres approches, quoi. Deathloop était aussi peut-être beaucoup plus action, peut-être un peu moins complexe que les précédents Arkane, peut-être plus linéaire. Il y avait cette espèce d'enquête aussi où tu devais retrouver un peu la trace de cible et puis identifier un peu leur emploi du temps.
Exactement.
Mais c'était une enquête qui se faisait de manière un petit peu automatique, en fait, où tu ne demandais pas forcément de réfléchir.
Tu avais une sorte de journal avec des objectifs très précis, et c'est en suivant ces objectifs que tu pouvais mener l'enquête. Tu n'avais pas spécialement, toi, à avoir un investissement psychologique en disant comment je vais articuler tout ça.
Donc le jeu restait quand même complexe dans ces systèmes, parce que tu avais la surcouche avec le multijoueur et tout, donc c'était, il y avait quand même beaucoup de choses.
Tu pouvais te faire envahir. Oui.
Mais c'était quand même un petit peu planqué derrière la couche FPS action, qui était un peu la première couche du jeu, qui était certainement plus accessible un petit peu. Pour Redfall, là, fini l'immersive sim, hein, on passe vraiment à une approche multi-FPS en équipe, monde ouvert, donc vraiment quelque chose d'un peu plus consensuel, on va dire. Et donc là, on a affaire quand même à des missions qui sont plutôt linéaires, un level design qui est moins travaillé, ce qui est quand même aussi une des marques de fabrique de Arkane. Finalement, on est sur un looter-shooter assez classique, avec même des bugs et une intelligence artificielle a priori un petit peu dégueulasse, quoi. Donc là-dessus, je vais pas en rajouter parce que beaucoup de sel a été versé sur Redfall, hein. Je pense que je vais pas frapper un homme à terre, quoi. Mais du coup, vraiment, on voit que chez Arkane, on a tenté vraiment de simplifier l'expérience même de leur jeu, bah, pour tenter de toucher un plus grand public. Et là, visiblement, ça a laissé des traces et ça n'a pas trop fonctionné, quoi.
Non, ça n'a pas marché, non.
Le jeu suivant, alors il est pas encore sorti, donc là c'est plus une hypothèse, on va dire, mais qui semble quand même assez vérifiée, c'est Assassin's Creed Mirage. Donc dans cet épisode, on semble revenir à un scope plus raisonnable, hein, en termes de monde. On a une échelle beaucoup plus réduite et on vient même sur une proposition qui se rapproche des origines de la série. Donc dans la communication, on voit qu'Ubisoft il mentionne des mots-clés qui sont importants pour les vieux fans comme nous, tu vois. Discrétion, assassinat, tiens, un retour à Bagdad, donc dans un cadre moyen-oriental, donc comme le premier épisode. Et surtout, on va avoir exploré qu'une seule ville cette fois-ci, pas un pays en entier. Et donc là, vraiment, le but, c'est tout bêtement de revenir vers les fans, hein, de la première heure, ceux qui étaient un petit peu fâchés par cette trilogie RPG qui est sortie récemment, donc Origins, Odyssey et Valhalla. Et là, on peut parler vraiment d'un exemple de décroissance dans le jeu vidéo, parce que vraiment, on fait un peu désenfler le tout. Donc, on va voir, hein, parce qu'en l'état, on peut pas juger du résultat. Et d'autant que les épisodes RPG ont quand même, a priori, plutôt bien fonctionné. Donc là, ce sera intéressant de voir, bah, si Mirage va fonctionner lui aussi, parce que les ventes de cet épisode, bah, risquent d'être un petit peu déterminantes pour la suite. Parce que là aussi, le constat qu'on peut faire, c'est qu'écouter les fans, c'est pas toujours une bonne idée, forcément.
Et si je reprends l'intitulé de ta chronique, du coup, là, le Assassin's Creed avec Mirage, il se re-singularise. En fait, il revient au début, là où, en fait, l'évolution de la saga se désingularisait. Petit à petit, quand on est arrivé jusqu'à Valhalla, bah, quand tu regardais Valhalla et Assassin 1, ils avaient plus trop grand-chose à voir. Alors que Mirage, là, finalement, reboucle la boucle.
On est plus sur une simplification, là, on va dire. un retour aux sources, quelque chose de moins complexe,
c'est
quelque
vrai,
chose de
c'est
moins
vrai.
Ambitieux.
C'est vrai, c'est vrai.
On va parler d'FF16 maintenant.
Allez.
Alors, je l'ai mis un peu dans le dernier exemple parce que je pense qu'il va y avoir du débat.
Ouais.
Alors, beaucoup de choses ont été dites sur FF16, hein, y compris ici. Et qu'on aime le jeu ou pas, on peut pas nier une volonté manifeste de l'équipe de développement de vraiment s'éloigner des spécificités japonaises et RPG de la saga. Mmh. Donc là-dessus, ils veulent vraiment se placer dans la roue hein, des AAA occidentaux, à la Witcher ou à la God of War. Et au-delà de la large inspiration Game of Thrones et de la direction artistique un peu plus contenue, je dis pas convenue, je dis contenue vraiment, mm-hmm. Bah le jeu il a pu frustrer notamment par son système de combat, donc il lorgnait vraiment sur un système très très action. Et le but c'était que rien ne vienne compliquer la tâche du joueur qui serait certainement novice là-dessus. Donc t'as qu'une seule arme, hein, t'as évidemment pas de dégâts élémentaires, t'as pas de buff debuff. En gros, ce qu'on avait l'habitude de retrouver dans les systèmes de combat de FF16.
Oui.
Le jeu, vraiment, il a été pensé pour qu'aucune aspérité ne vienne se mettre entre celui qui va découvrir le jeu et celui qui et l'aventure en elle-même. Quoi.
Ouais.
Et vraiment, clairement, dans le sens où c'est orienté pour celui qui découvrirait la licence FF pour la première fois. Quoi. Là, on est vraiment dans une optique de plaire à l'Occident, hein, donc avec une approche du jeu qui est plus rationnelle, plus réaliste et même un peu moins exubérante. Alors j'avais fait une take de Twitos Patrick Finn, mais la première fois que j'avais vu le trailer du premier trailer du jeu, j'avais dit c'est Final sans fantasy en fait. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que en tout cas au moins le premier acte du jeu, celui qui va vraiment un peu déterminer, je pense, si les joueurs vont accrocher ou pas, il est quand même beaucoup plus sans magie, sans exubérance. Ça se lâche un petit peu à la suite, ça on va pas, je vais pas dire le
l'acte,
contraire.
L'acte 1, c'est la démo, on est d'accord?
Non, moi je pose jusqu'à à peu près 6-8 heures de jeu.
Oui, après moi c'est sur les termes, parce que quand même, il y a quand même des grosses invoques qui se fritent.
Qui s'y fritent.
Il y a quand même de la magie, quoi. C'est pas des mecs qui ont deux épées et qui se la jouent. Enfin,
la première partie, on est quand même sur un truc très Game of Thrones, très politique, très
relations,
machin.
Dans les enjeux, on est quand même clairement très terre à terre, mais on a, pas en toile de fond, mais on a quand même des entités magiques et gigantesques qui se tapent dessus, quand même. Donc ça peut, faut pas.
Le but, c'était quand même de viser, je pense, un public non traditionnellement fan d'FF, sachant que les vieux fans, eux, ils se jetteraient sur le jeu, quoi qu'il en soit, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Et c'était marrant, parce que t'avais fait ta chronique, toi, sur justement les jeux que tu, plébiscitais, des jeux un peu à l'os, tu vois, où qu'il n'y avait pas de superflu, pas de surcouche, de système et tout.
Oui.
Est-ce que là, on n'est pas dans un exemple où c'est peut-être un peu trop?
Ouais. Alors, c'est peut-être là où je ferai une nuance. Tu peux avoir un jeu à l'os, mais qui va avoir différents niveaux de lecture. FF16, je suis content, il va dans le sens que moi j'apprécie, de jeux qui sont pas en surcouche de système, où ils vont pas te rajouter, par exemple, Watt 1000 anneaux, Watt 1000 armures, tu peux faire des coups de ceci, et ça, c'est très simple. Mais la façon dont on va se battre dans Final Fantasy XVI est là trop simpliste. C'est-à-dire que t'as vraiment qu'une seule façon de combattre, et tu n'as absolument aucune aspérité, c'est même pas une aspérité, c'est que t'as aucune variété. C'est que du début à la fin du jeu, tu peux faire les combats exactement de la même façon. Il y a rien, il va y avoir aucune friction, aucune stimulation psychologique, dans le sens où on va pas te demander ni de faire des variations sur les éléments, tu l'as évoqué, sur des ennemis qui peuvent être en l'air, qui peuvent être au sol. Il y a absolument rien.
En gros, voilà, si tu te construis un build avec des compétences où tu es efficace, tu arrives à être efficace pour un combat, tous les ennemis, tu pourras les traiter de la même manière avec le même schéma, quoi.
Mais pourtant, le jeu est riche de capacités. Si tu regardes, je crois qu'il y a quand même 25 capacités en tout, différentes, avec des variations, on va dire. Et toi, c'est à toi de t'aménager ton jeu presque pour t'amuser. C'est à toi de te dire, je suis dans mon bac à sable et je vais m'amuser à faire ça. Mais jamais le jeu va te demander, en fait, il va te solliciter en te demandant, en t'exigeant, en te disant, cet ennemi, t'es obligé de le juggle, t'es obligé de le mettre en l'air, sinon il prendra pas de dégâts ou il prendra pas de stun. Non. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment, je trouve, un écueil, quoi.
Ouais. En tout cas, voilà, quand on parle d'une chronique, il y a toujours des contre-exemples. Hein, et j'imagine que chez vous, vous êtes en train de dire « Mais attends,
mais ce
jeu, c'est complètement le contraire, je comprends pas. » Oui, il y a des contre-exemples, et notamment un qui est assez symbolique et assez récent, c'est évidemment Zelda. Donc là, la série Nintendo, elle a finalement parcouru le chemin inverse. C'est-à-dire qu'avec Breath of the Wild et surtout Tears of the Kingdom, la complexité en fait des jeux a fait exploser son aura pour atteindre des niveaux de vente que la série elle avait jamais connus jusqu'alors, quoi. Malgré son aura quand même qui était plutôt forte, quoi. Donc là, on en a déjà parlé pas mal, mais t'as le mapping compliqué un petit peu, t'as le monde ouvert gigantesque, la durée de vie qui explose, les quêtes annexes en pagaille ou le monde systémique, l'ajout de nouveaux pouvoirs ou même le système de construction dans Tears of the Kingdom. Alors là, on peut parler de révolution dans la révolution au niveau du gameplay. Et donc, par certains aspects, il s'agit certainement du jeu le moins accessible jamais produit par Nintendo.
C'est clair.
Et pourtant, ça plaît, pourtant ça marche, pourtant ça cartonne, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais je suis à 200% d'accord avec toi sur Tears of the Kingdom. Sur Breath of the Wild, je trouve quand même qu'il y avait une espèce de retour ou une mise à plat où finalement il y avait un système avec un moteur physique et chimique assez complexe, mais le jeu en lui-même, c'était un Gus perdu dans une plaine et c'était à toi un petit peu de t'amuser. Alors le jeu, contrairement à FF16, nous sollicitait extrêmement, enfin souvent, avec les sanctuaires, etc., etc. Mais même au niveau de la direction artistique, et certains pourront le déplorer, les sanctuaires c'était tous les mêmes, toujours la même musique. Il y avait une forme de simplicité de retour à plat, tu vois, où on était un petit peu il faisait table rase du passé.
Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que je trouve, moi, dans l'utilisation des pouvoirs, par exemple, te sollicitait quand même plus que les classiques Zelda, t'as un boomerang, t'actives un Inherian avec, tu vois. On était quand même dans un niveau, je trouve, de réflexion un peu plus lointain, quoi.
Je suis d'accord. C'est juste, peut-être ce que je disais précédemment sur les systèmes. Là, on n'était pas sur un jeu à sur-système. Oui. Dès le début, on te proposait quatre fonctionnalités, et avec ces quatre fonctionnalités, tu allais jusqu'au bout du jeu. Alors que, peut-être, les précédents Zelda, on peut comparer chaque objet clé à un système, et tu vas à chaque donjon avoir un nouveau système, un nouvel objet qui va permettre de complexifier les différentes boucles de gameplay.
C'est vrai qu'on parle de complexité, s'il faut, c'est juste ce changement en fait qui a provoqué tellement d'une manière différente d'envisager la saga que ça demande une mécanique intellectuelle différente.
Mais Tears of the Kingdom, je suis d'accord avec toi, hein, ne serait-ce que pour manette en main, avoir le mapping en tête, avoir ne serait-ce que la projection 3D des objets qu'on va construire, enfin des véhicules qu'on va se construire, il va falloir vraiment se poser en se disant « Ok, il faut que je fasse ça, c'est pas évident du tout. »
Ce qu'on peut sortir un petit peu de tout ça, c'est qu'en gros, bosser contre l'identité du studio, si c'est fait de manière artificielle, évidemment, ça va jamais donner quelque chose de bon. On en parlait il y a pas longtemps sur les studios forcés de bosser sur des jeux services où c'est pas forcément leur ADN, en fait.
Oui, exactement.
Pour des jeux comme Redfall ou FF16, on sent qu'il y a eu un cahier des charges en amont qui était peut-être un petit peu trop pesant et qui avait une approche un peu trop peut-être réfléchie qui a encadré le développement. Bah, si bien que cette volonté d'aller chercher un nouveau public, bah, poser un petit peu un souci, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Donc, à voir, en fait, jusqu'à quel point tu peux tordre la formule que tu as toi-même créée ou perfectionnée, hein, dans le cadre de Arkane ou de Final Fantasy, avant de perdre tout le monde. Parce que, bon, quand on achète un jeu Arkane, finalement, c'est qu'on a envie de retrouver l'esprit Arkane. Et idem pour un Final Fantasy, quoi.
Oui.
En ce qui concerne Assassin's Creed, on a entendu que c'était vraiment une volonté créative de l'équipe de développement. À voir à quel point c'est du marketing ou pas, mais... Ce qui est une preuve qui me semble penser que c'est vrai, c'est que l'approche RPG, elle semble pas du tout abandonnée, parce qu'on a le prochain épisode qui sera au Japon, qui ira dans ce sens-là, et on a même des rumeurs d'un remake de Black Flag, qui est un petit peu le père de cette trilogie RPG. Donc on peut penser que c'est vraiment une volonté du studio de Bordeaux de revenir aux sources de la série. Et là, on peut penser que c'est plutôt bénéfique d'aller dans le sens des envies du studio, quoi.
Ouais. Puis il y a la conjoncture aussi qui fait que Mirage était censé être un DLC, et donc de base est parti avec une ambition, un scope minoré, parce que derrière il y avait Red, il y avait l'ensemble des Assassin's Creed qui sont prévus à l'avenir et qui seront eux des mastodontes gigantesques.
Ouais. En tout cas, on peut affirmer que l'équation simplification égale succès, bah, elle est loin de montrer son efficacité.
C'est
évidemment
clair.
Et quand on voit les succès de Elden Ring ou de Zelda, on se dit que finalement, bah, le public, il est quand même prêt à faire un effort pour entrer dans un jeu si ce dernier envoie la chandelle et que justement sa singularité fait que tu retrouveras pas cette expérience ailleurs, quoi. Et ce qui compte, en fait, tout simplement, c'est la volonté créative du studio derrière le projet, quoi.
Ouais, c'est clair. Parce que, du coup, je suis d'accord avec toi, la singularité, c'est ce qui prime. Il faut pas, je pense, faire un amalgame entre simplicité et accessibilité. Et c'est les studios, ils se foutent de la simplicité. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'accessibilité, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire avoir un accès au jeu facile, jouer au jeu facilement, comprendre les enjeux, comprendre le gameplay. Il faut qu'on soit... dans une immersion totale et effective hyper rapide, et c'est ça qu'ils cherchent. Et j'ai peut-être un exemple à te proposer.
Vas-y.
Et ce que manque, à mon sens, Final Fantasy XVI, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les enjeux gameplay manette en main, sans pour autant minorer l'accessibilité. Ils ont voulu jouer FF16 sur l'accessibilité, avec les objets qui vont te permettre de contrer facilement, de faire en sorte que...
D'esquiver automatiquement.
D'esquiver, que ton sidekick, Talgor, il va jouer tout seul. Ils ont voulu que ça soit simple, que tout le monde puisse se mettre à un Final Fantasy simplement, mais ils ont oublié d'avoir plusieurs couches et plusieurs niveaux de lecture.
Ouais.
C'est-à-dire que si t'es un joueur un peu chevronné et que t'as envie, t'as rien à te mettre sous là-dedans. Et ben, l'exemple que j'ai à te filer, c'est Street Fighter VI. Street Fighter VI qui va à 200% dans ce sens-là, qui propose une nouvelle maniabilité, très accessible, très facile, de l'auto-combo, très peu de coups, machin, tout ça, mais t'as un niveau de complexité quand tu sais jouer à Street Fighter VI qui n'a peut-être jamais été aussi élevé.
C'est vrai. Et donc au moins 4 ou 5 options que tu peux choisir avec une même jauge à arbitrer, en fait.
Donc Capcom, en ce moment, on les défend, ils ont le vent dans le dos parce qu'ils sont juste trop bons. Et là, en fait, c'est la réponse. Et ce que Final Fantasy XVI n'a pas su faire, ce que plein de jeux ne font peut-être pas, c'est proposer deux niveaux de lecture. Et Street VI, que tu sois un novice ou que tu sois un vieux de la vieille, ça va fonctionner. Il a l'air de bien se vendre. Vous avez parlé des ventes du million qu'il avait passé. Est-ce que ça sera le plus vendu? Est-ce que leur ambition a fonctionné de faire de l'accessible et du deep? Je sais pas.
En tout cas, Ken, qui est dans le Buy Street 6 à fond, hein, il nous dit qu'il y a vraiment un engouement qui revient un peu à la Buy Street 4, où il sent que les gens sont motivés, que ça joue. L'Evo, il y a eu un record d'inscrits, je crois. Donc, c'est un super bon exemple.
Donc, ça joue dur. Mm. Mais ils ont proposé à tout le monde, bah, allez-y, Street, c'est aussi pour vous.
Quoi. Et c'est vrai que ça vient un peu briser certains qui font un amalgame complet entre simplification et complexité et en disant, si tu fais un démo de contrôle, c'est plus mon jeu, c'est plus dur, c'est pas ce que j'aime. Enfin, non, on peut avoir justement de la complexité tout en étant accessible.
Et FF16, encore, désolé, je reviens dessus, mais le fait de pas proposer de dégâts élémentaires, de pas proposer de variations entre des coups dans le sol ou des coups en l'air, tout ça, ils ont proposé des anneaux. Pourquoi ils ont pas proposé des anneaux qui permettraient aux joueurs qui se fichent de tout ça d'avoir un équipement élémentaire adapté aux ennemis qui sont en face de toi? Et si toi, tu veux ne pas l'utiliser, tu enlèves l'anneau, etc. C'est vraiment, c'était 100% la volonté du studio.
Moi, j'y vois deux trucs. C'est soit ils ont sous-estimé les joueurs, en fait, en disant ça va être trop complexe, alors que non. Ou soit c'est qu'ils n'ont pas eu le temps, en fait, qu'ils ont eu un dev très compliqué, qu'ils ont dû parer au plus pressé à un moment.
Faut arrêter de dire qu'il était fini depuis un an, du coup.
Ah, bah, c'est vrai qu'ils ont un peu trop fait les beaux, donc. Tant pis pour eux.
Eh ben écoute, merci beaucoup pour ta chronique, c'était vraiment top. N'hésitez pas à nous dire, qu'est-ce que vous pensez de la simplification, l'accessibilité, la singularité, comment les jeux et les sagas évoluent, la dynamique actuelle. Hein, on est vraiment dans une dynamique globale où tous les jeux, tous les studios cherchent à faire le plus de ventes. C'est très très prosaïque en fait. Hein, on est là, enfin ils sont là, on est là.
Nous sommes tous
là pour faire de l'argent. Mais pas Red Alert, Red Alert il est gratuit pour tout le monde. C'est l'heure de l'interlude top 3 cette semaine qui s'intéresse au jeu de l'été. Donc tu as évoqué tout à l'heure peut-être un sommaire masqué du Red Alert qui aura lieu 14 août, le Red Alert estival. Voilà, là on s'est donné des objectifs.
Parfois plus ou moins réalisables, souvent on s'emballe un petit peu.
Là moi clairement je me suis emballé, jamais j'y arriverai. Mais voilà, le top 3 des jeux qu'on va faire cet été que vous retrouverez en août ou... souvent en septembre on fait aussi les rattrapages tout ça de ce qui s'est passé. Allez, je te laisse commencer avec ton top 3. Qu'est-ce que tu vas faire?
Alors mon numéro 3 c'est Layers of Fear, donc le jeu de comment s'appelle-t-il déjà,
Bloober
Studio. Alors Bloober, je trouve qu'ils sont un petit peu inconstants, ça souffle le chaud et le froid parfois, mais bon, ça reste quand même un studio qu'on suit avec attention parce qu'ils sont notamment sur le remake de Silent Hill 2. Donc Layers of Fear, il est sorti assez récemment, donc c'était au mois de juin je crois. C'est tout bêtement un amalgame en fait de deux premiers épisodes avec une surcouche qui vient un petit peu enrober le tout et créer des liens entre les deux. Donc j'avais pas fait les deux premiers épisodes, mais ils ont plutôt bonne réputation. Donc on est sur du Walking Simulator un petit peu horrifique d'après ce que j'ai compris. Et donc là c'est un petit peu l'édition ultime de la licence Layers of Fear et ça me paraît être une bonne occasion de m'y mettre. C'est dispo sur le Game Pass en plus, ce qui ne vient rien gâcher à la fin.
Trop bien. Donc, commençais à me perdre moi sur les noms parce qu'il avait commencé, il avait été d'ailleurs Layers of Fear au début. Ouais. Ils ont enlevé le S.
Ouais, en fait, il s'appelle les trois Layers of Fear, donc Layers of Fear 1, Layers of Fear 2 et là c'est Layers of Fear si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'était pas ça,
mais bon, en gros lui c'est le best of qui vient un petit peu prendre la place de tout le reste de la série qui a l'air plutôt joli en plus je suis curieux de voir ça.
Carrément. Pour ma part, donc là, je vais commencer avec un jeu Switch et vous allez voir qu'il y a une continuité. La Switch ne serait-ce pas la meilleure console de l'été, peut-être la console de la vie, je ne sais pas, mais cet été, j'ai envie de me faire Pikmin. Alors, il y a eu Pikmin 1 et 2 HD qui sont sortis. J'adore Pikmin 1, parce qu'il y a tout un rapport au temps, on va en parler là dans quelques minutes avec Majora's Mask, mais je kiffe, moi, tout ça. Et il y a le 4 qui sort cet été, donc... Je sais pas, est-ce que je me lance dans le nouveau? Est-ce que je relance le premier? Je sais pas.
Est-ce que tu serais capable d'enchaîner deux jeux Pikmin?
Je pense pas. Franchement, je pense pas. Peut-être sûrement faire le 4.
Prima la nouveauté.
Ouais, toujours plus intéressant de découvrir les nouveautés, mais voilà. Pikmin.
Il a l'air bien différent en plus.
Que tu mets 10 ans. Mais est-ce que c'est pas un jeu vraiment de l'été, Pikmin?
J'avoue, il y a les petites fleurs, les petits Pikmin. Là, tu fais tes petites déambulations chill.
On est bien. Allez, ton top 2, c'est quoi?
Mon numéro 2, alors j'en ai parlé dans le Summer Game Fest, c'est The Bookwalker Thief of Tales.
Ouais.
Donc, c'est un des jeux que j'avais noté comme qui m'avait un peu titillé. Et bien, il est sorti juste après, on en a fait un retour sûr. Il est aussi dans le Game Pass. Ça, c'est plutôt les bons bails de l'été.
Tu vas parler du scandale ou pas?
Le scandale. Ah, alors oui, alors c'est que. Oui, ça, c'est un scandale de ouf et que vraiment, je ne m'explique pas. C'est que la version Steam, donc, a des textes traduits en français, mais la version Xbox, donc dispo sur le Game Pass, n'est que anglais only.
Incompréhensible.
Alors j'espère qu'il y a peut-être une mise à jour, c'est peut-être une petite erreur, quelqu'un qui a pas passé le bon fichier, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un jeu qui est un peu point and click, donc on évolue, on incarne un personnage en vue subjective dans un univers un petit peu réaliste et qui va plonger dans des livres comme autant en fait de mondes pour là passer en mode 3D isométrique point and click un petit peu pour résoudre une enquête. Donc ça fait dans les 6 heures à peu près,
ça a l'air trop bien.
Idéal pour moi. Et voilà, je suis très chaud.
Avec un bonhomme en tête de livre, non ?
Il a une tête de livre, effectivement.
Ça a l'air vraiment très cool. Pour ma part, en seconde position de ce top 3 des jeux de l'été, ça sera Advance Wars 1 et 2 Remake. Je ne triche pas, c'est dans la même console.
Oui, alors que Pikmin 1 et 4, c'était pas du tout dans cette console.
Tu as raison. Mais dans la même cartouche, pardon, Pikmin 1 et 4, c'est vrai que j'ai un peu triché. Toujours sur Switch. Alors, c'est la guerre, mais c'est coloré, c'est estival.
C'est la guerre rigolote, quoi.
On se fout sur la gueule, mais avec le sourire.
Personne ne meurt, voilà.
Personne ne meurt, je suis trop chaud, j'adore les Advance Wars, je ne ferai pas le 1 et le 2, je les ai déjà fait à l'époque, donc peut-être direct attaquer le 2.
Mais c'était l'an dernier qu'on disait que c'était l'année du Tactics, et d'ailleurs le jeu devait sortir l'an dernier, donc oui. On poursuit un peu sur cette voie, enfin en tout cas si vous aimez les Tactics en ce moment, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, toujours sur Switch, je suis très chaud.
Ouais, l'approche graphique, je suis un peu moins fan,
ah ouais,
le côté ouais, très, ça fait un peu jeu flash des fois, je trouve.
Oh t'es dur, le mec est très bien.
J'aimais bien le pixel des versions de l'époque.
Ouais, ouais. Allez, ton top 1, le jeu que tu vas faire, c'est sûr.
Bah là, hommage à toi, mon cher ami. Humanity, tu me l'as tellement vendu, tu en as tellement dit du bien que je ne peux qu'être curieux.
Je fais des pouces à la caméra, donc c'est très podcast, ça marche.
Donc on a eu deux jeux dispo dans le Game Pass. Là, si j'ai bien compris, Humanity offert avec le second niveau d'abonnement.
Exactement.
Du PS Plus.
Oui.
Donc celui du le 2 et le 3. Donc évidemment, moi j'ai le premier, donc
oui.
Je vais devoir l'acheter. Mais alors je t'avoue, j'y vais sur, je te fais confiance à 100% parce que ça m'excite pas plus que ça ce que je vois.
J'espère que ça va te convaincre. Ouais.
On va voir.
Très très bon jeu. J'espère que ça va te convaincre. Écoutez, à ton retour, sur Humanity. Donc il y a une chronique.
C'est vrai que j'ai pas dit. C'est un jeu de stratégie un peu où tu guides des gens. Enfin, un jeu puzzle réflexion.
Pas facile de le pitcher. Effectivement, c'est un puzzle réflexion où tu diriges une foule d'humains en contrôlant un petit chien de lumière. Voilà. Jeu de l'été. Je pense que c'est ça peut grave le faire. Et en top 1, quoi de mieux qu'un jeu qui s'appelle Soleil pour l'été. Et alors là, c'est Retro Gaming, un jeu qui est sorti sur Mega Drive fut un temps. Mais désolé, c'est l'actu. Il est disponible sur le Switch Online, voilà, qui sur Mega Drive. Ça vient de sortir. C'était pas prévu dans mon planning, mais direct, ça c'est top 1, c'est obligatoire.
Et lui, il est pas dans le top 10 all time, Soleil. Hein.
Je ne sais pas.
Il doit pas être loin.
Il doit pas être loin. Mais est-ce que ça sera pas l'occasion de le faire rentrer? Pas.
C'est le jeu avec les petits élémentaires que tu dois trouver là, c'est ça que tu combines les pouvoirs?
Non, c'est des animaux.
C'est des animaux.
Je t'en ai pas assez parlé.
Non,
là vraiment, tu comprends pas le principe. C'est vraiment que j'ai pas dû.
C'est un Zelda-like.
J'ai pas dû assez. Oui, bien sûr, c'est un Zelda-like, tout à fait. Mais voilà, on en reparlera sûrement un petit peu. C'est mon top 1. Des mentions, j'en ai, tu en as.
Ouais.
Allez, vas-y, je te laisse. Si tu as le temps, ça se
On passe. A parlé Bayonetta Origins, ça, quand même, parce que bon, j'aime bien la série, j'ai fait les 3 épisodes principaux. Alors, de ce qui se dit ici, pour les gens qui ont pu le tester, ça a l'air sympa, mais un peu chiant.
J'ai donc très envie de le finir aussi.
Le compagnon des siestes de l'été, voilà, où tu joues une demi-heure avant de t'assoupir.
Alors, Ken est très bouillant sur ce jeu, je l'ai aussi débuté, mais je l'ai arrêté parce qu'il est soporifique, non pas par son jeu, mais par ses tunnels de dialogue, où vraiment. Et puis, je sais même pas s'il y en a tant que ça.
Faut passer le début, en fait, quoi.
Je sais pas, Ken, il semble dire que ça continue. Mais c'est pas tant qu'il y a beaucoup de dialogues, c'est que c'est pénible en fait.
Ouais.
Ce qu'il raconte, c'est lent, c'est pas très intéressant, mais j'aimerais le mettre aussi cet été. Mais...
Bah, deuxième jeu que Ken plébiscite, c'est Hi-Fi Rush, évidemment. Alors on en a parlé en début d'année. C'est presque un peu l'inconvénient d'avoir eu ce Shadow Drop, c'est qu'on l'avait pas prévu un peu dans nos plannings quelque part. Et finalement, moi j'avais pu faire les deux premiers niveaux, je trouve ça mortel, évidemment. Et voilà, il faut que je m'y remette pour aller jusqu'au bout, quoi.
Ouais, j'aimerais aussi le terminer. Mais déjà, c'est impossible. Moi, c'était là, les deux que t'as nommé, j'aimerais aussi les faire.
Mais
et
t'as
si
mis
j'ai
que
le
des
temps,
jeux longs, toi.
Ouais, et que des jeux Switch. Surtout, c'est ça qui est un Bayonetta Origins Switch, Hi-Fi Rush. Ah non, pas sur Switch. Donc je
j'ai
le ferai
qu'un
pas.
Seul jeu Switch.
Ouais, bah bravo. Hein. Moi, j'ai que des jeux Switch. Si j'ai le temps, je vais faire Metroid Prime Remake. Je suis trop chaud. Si j'ai le temps, je ferai FF6 Pixel Remaster. Parce que j'ai très envie
jamais
de faire.
Jamais de la life.
Jamais de la vie. Et surtout, mais alors vraiment, si j'arrive à me dégager un peu de temps, c'est que je vais faire Might and Magic Clash of Heroes, un remake d'un vieux jeu qui est sorti sur DS. Et il sort le 20 juillet. Ça, franchement, il faut s'y intéresser. C'est un jeu impitchable aussi. C'est une sorte de match 3 de guerre.
RPG, Tower Defense.
Ouais, exactement, tout ça. C'est vraiment, j'aimerais m'en faire une chronique même, mais moi j'ai adoré ce jeu
c'était
à l'époque.
C'était genre ton coup de cœur 2012.
Ah ouais, vraiment, c'était incroyable. Ça sort le 20 juillet, si jamais il faut s'y intéresser.
Attention, l'été, c'est en août aussi. Attention, fin août, il y a Armored Core 6 qui sort le 25 et le 2, 3 jours après, le mec s'est pas compté, le 28, il y a Sea of Stars. Alors là, on est sur deux duos de GOTY, là. Enfin, sur un duo de GOTY.
Ouais, donc on va dire, voilà, notre créneau tranquillité pour tester des jeux qu'on n'a pas eu le temps de faire, ça s'arrête au 26 août.
Au 25 même. Allez. C'est le 25 et le 28.
Ben moi, je décide de la matrice. Voilà, tu jouerais pas des WEN.
Les deux te branchent. Tu vas faire quoi? Armored Core, peut-être?
Alors, Armored Core, je fais un petit peu pour l'instant, mon mec, un petit peu, tu vois. Ton... Genre, ouais. Je te regarde de loin, je t'ignore un petit peu. Mais je sens la hype monter en moi. Les dernières vidéos, ça a quand même l'air d'avoir de la gueule. Surtout, c'est dynamique. Moi, c'est toi qui me fais un petit peu peur. T'as l'impression de voir un Zoé, en fait, un Zone of the Enders.
Ouais. Petit Virtual On aussi, stylé.
Ouais, et ça a de la gueule, hein, même si, évidemment, le côté usine, technologique, ça fait un peu moins rêver que les plaines d'Elden Ring, mais. Je pense qu'ils peuvent nous surprendre, en fait, et tous nous cueillir, alors que je pense qu'on est, nous, on est une génération qui avons connu les vieux Armored Core, et si tu m'avais dit à l'époque que j'attendrais un épisode, je t'aurais rionné, quoi.
J'ai jamais touché. On n'est pas des anciens sur ce coup-là. Donc, ouais, Armored Core 6, Sea of Stars, voilà. Vraiment, on est du GOTY potential, comme on dit. Voilà, pour ce top 3 de l'été, n'hésitez pas à nous dire, vous, qu'est-ce qui va occuper vos beaux jours cet été, et à nous balancer d'autres idées de top 3. Là, vraiment, vous bombardez, hein, ça fait super, super plaisir. Allez, on y va. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est estival de parler de Majora's Mask?
C'est un jeu portable, c'est l'été, quoi.
Alors, la rubrique top 10 all time, hein, est connue mondialement à présent, hein, mais bon, pour ceux qui ont raté peut-être les premiers épisodes, je vais rapidement vous résumer le truc. Mon objectif ici, c'est de refaire mes 10 jeux préférés de la vie, hein, ceci pour les confronter à mes souvenirs et à la réalité du marché du jeu vidéo actuel. L'idée, c'est aussi de faire évoluer ce top, de bouleverser ce qui pourrait être gravé dans le marbre et de peut-être briser de vieilles certitudes ou de les consolider.
Aïe.
On ne sait pas. Ce qui est intéressant, je pense, c'est de porter un regard nouveau sur des jeux qu'on pense connaître par cœur. Avec le temps, on évolue et la façon dont on va comprendre les jeux change radicalement. C'est le cas pour toutes les œuvres, hein, les livres, les films, les séries, les jeux vidéo. Et vous verrez, la thématique du temps est très importante dans la chronique d'aujourd'hui. Nico, avant première question, est-ce que tu as un souvenir, toi, d'un jeu, d'une œuvre, d'un livre que tu as connu peut-être plus jeune et que tu as refait aujourd'hui ou récemment et du coup, tu as porté un regard nouveau? Tu t'es dit, tiens, ça, je l'ai pas apprécié ou comme il fallait ou je l'ai apprécié différemment?
Alors, j'ai pas de souvenir qui vient en tête précis, mais c'est vrai que je fais beaucoup ça pour les films, en fait.
Ouais, carrément.
Je remate, alors pas dire régulièrement, mais très souvent des films que je connais, hein, mais que je peux jauger différemment. Et c'est vrai que t'as des films que tu vas redécouvrir un petit peu.
Ouais. Tu as revu la saga de l'homme au chapeau avec un fouet?
Oui, alors ça, c'est, je les remate tous les ans. Hein, ça.
Est-ce que malgré tout, même tous les ans, des fois tu te dis, tiens, ça je l'avais pas compris comme ci, comme ça?
Voilà, ouais. Je pense que là, j'ai fait un peu le tour, mais j'ai le plaisir et chaque fois renouvelé. Je rigole comme un con aux mêmes blagues et je souris bêtement au même moment. Donc ça, c'est intemporel, ça marche toujours sur moi.
Alors, depuis la sortie de Majora en 2000, hein, sur N64, les épisodes de Zelda, bah, il y en a eu pas mal, hein. Il y en a eu une douzaine, hein, sans compter les spin-offs. Après, Link s'est fait attendre entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, une absence de 6 ans. Très appréciable, hein, après une exploitation un peu trop intensive de la licence. Mais pour ma part, bah, rejouer à Zelda, à un Zelda à l'ancienne, donc Majora, que j'ai refait sur 3DS. Un épisode avec des donjons, des puzzles, des objets clés, toute la panoplie des Zelda classiques. Bah, moi, ça m'a fait super plaisir. Et depuis Breath of the Wild, la philosophie de la licence a évolué, hein, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, et c'est tant mieux, franchement c'est cool. Mais elle s'est transformée pour quelque chose que, perso, j'aime un petit peu moins. De ce fait, bah, c'est plus que de la nostalgie que j'ai ressentie quand j'ai refait Majora, c'est carrément un sentiment de retrouvaille. Nico, j'ai une question pour toi, les Zelda à l'ancienne, de l'époque, est-ce que ça t'évoque une époque révolue? Qu'est-ce que ça t'évoque, toi?
Ouais, mais je m'en veux de dire ça parce qu'on est tellement prévisible, c'est que on a tellement dit les Zelda, on a marre de cette formule éculée où ça se renouvelle pas. Là, on a eu du renouvellement et quel renouvellement, des jeux incroyables. Et déjà après seulement même pas 10 ans, on est là en train de lorgner vers les vieux en disant ah là là, j'ai quand même une petite nostalgie pour ces jeux de l'époque. On est irrécupérable.
Et toi, tu l'as pas trop cette nostalgie? Toi, t'as embrassé.
Petit Zelda à l'ancienne, là, ça pourrait ne pas me déplaire. Tu vois, je sais que moi, il y a un seul épisode que je n'ai pas encore fait, c'est le Between Worlds sur 3DS.
Ouais,
donc,
il est vraiment
le Zelda 3 à 2, un peu, on va dire. Et je commence à me dire, tiens, ça pourrait être sympa à l'occasion de me plonger dedans.
On en a parlé dans une précédente émission, ces sagas qui sont si longues que quand elles reviennent sur leurs pas, et on l'a même évoqué avec Mirage, bah finalement, revenir aux sources, c'est une forme de nouveauté.
Bon, on l'a vu avec James Bond aussi au cinéma, où ils ont déconstruit pour reconstruire, et on était tous là comme des oufs, alors que bon. Hein.
Tout est cyclique.
Ouais.
Comme le temps, vous allez voir. Alors, vous le savez peut-être, mais avec Nico, nous avons écrit un livre sur la saga Zelda. On ne va donc pas parler aujourd'hui en détail du développement de Majora's Mask, de son ambiance, de son histoire, de ses thématiques. Tout ça, c'est dans le livre. On va parler de quoi aujourd'hui? Vous allez voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon top 10 perso, donc j'ai forcément des critères très perso. Majora, c'est un jeu qui résonne pas mal avec quelques-unes de mes obsessions, hein, les masques, faire des listes et les quêtes annexes. Alors, on va s'arrêter uniquement sur la dernière, car vous fichez du pourquoi je bloque sur les masques et les listes.
On préfère ne pas savoir, oui.
C'est pas Ice Watch Chat, si je veux. Mais les quêtes annexes, c'est important. Alors, des quêtes annexes, il y en a de toutes sortes dans le jeu vidéo, des biens, des nuls, des travaillés, des bâclés. Certaines sont si intéressantes qu'elles se confondent avec la quête principale. Néanmoins, même quand elles sont exceptionnelles, elles ne sont jamais constitutives du jeu. Elles ne sont jamais le cœur du jeu, sauf à de rares exceptions. Je pense à Death Stranding et évidemment Majora's Mask. Nico, Death Stranding, c'est quoi ce délire d'avoir... Ben, pas de fil conducteur, d'avoir que des quêtes annexes qui sont mis bout à bout, ça a été original, t'as parlé tout à l'heure de singularité.
Ouais, mais c'est comme on dit, c'est la quête FedEx portée au nu, en fait, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas l'histoire avant, l'histoire après, ce qu'on te demande de transporter ou pas, c'est le cheminement, en fait, qui est intéressant, et sans ça que Death Stranding a été un truc de ouf, quoi, et ouais. Qui a pu aussi rebuter pas mal de gens, quoi.
Et en parlant de quête FedEx, on vous conseille un Surstrike que j'ai complètement oublié dans le planning. Il sortira, lui, je crois, dans 3 semaines. Un Surstrike avec quasiment toute la team. Il manque Ludo, qu'on embrasse. Et Damien, dans sa chronique Enquête, vous parlera des quêtes FedEx. Donc, en plus de tout le planning qu'on vous a balancé tout à l'heure, il y aura en plus un Surstrike au milieu de l'été.
C'est bien fait, quand même.
Alors, dans Majora, les quêtes annexes, ben, n'en sont pas. Tout simplement parce qu'elles représentent l'essentiel de l'expérience. En fait, cet épisode de Zelda, c'est un enchaînement de plusieurs quêtes annexes, plus ou moins courtes, de teneurs différentes, qu'on peut réaliser plus ou moins dans l'ordre qu'on veut. Perso, j'adore. D'ailleurs, c'est ce que j'ai préféré dans mon second Zelda de cœur, qui est Link's Awakening. Ce que j'ai préféré, c'est la longue quête annexe dans laquelle on devait échanger un objet petit à petit, aller voir des gens, échanger, et à la fin, on avait la loupe qui nous permettait d'avoir le boomerang. Est-ce que tu te souviens de cette quête dans Link's Awakening? Est-ce qu'elle t'a plu?
Pas de ouf. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle est assez indispensable, en fait, parce que c'est pour avoir le cheminement dans l'œuf de fin, si j'ai pas de bêtises.
Mais c'est la loupe, je crois, non? C'est pas ça.
La loupe te permet de lire un livre, en fait, qui te donne le chemin, en fait, que tu dois prendre dans le dernier donjon du jeu. Mais j'en garde un super souvenir, et de manière générale, Link's Awakening, c'est un super souvenir, quoi.
Ouais. Les quêtes annexes sont si importantes dans Majora que c'est dans l'une d'entre elles qu'il faudra aller chercher le sens caché du jeu. Oui, absolument, tout ce qui caractérise Majora est condensé dans la quête annexe de Cafei, qui est la quête des amoureux, et que ce soit les mécaniques, il faudra un cycle complet de 3 jours pour la terminer, que ce soit les thématiques, Cafei c'est un adulte enfermé dans un corps d'enfant, que ce soit l'ambiance, c'est super triste. Tout se trouve dans cette quête. Et on vous explique tout ça dans notre livre. Nico, c'est instant promo, là, vraiment. Alors, promo, mais pas trop. On est bon parce qu'on vous vend un livre qu'on n'a pas en stock.
Ouais, voilà. Donc, vous pouvez acheter l'ebook si vous voulez. C'est vraiment parce que la quête de Cafei, c'est un peu la quête du Baron Sanglant de Witcher 3. C'est celle que tout le monde ressort et que tout le monde a apprécié. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, elle se déploie sur l'ensemble d'une section de jeu. Elle est d'une complexité assez étonnante. Enfin, ça pourrait être le scénar principal, que ça gênerait pas. Et tu dis, elle est triste, c'est vrai, mais elle est aussi mignonne, quoi. Il y a des sentiments.
Je sais pas, quand même. Moi, je la trouve vraiment triste. Ouais, elle est mélancolique.
Ouais,
mais pas le bonheur, quand même. À la fin, ça prend des lunes sur la gueule, quoi. Une autre obsession perso, c'est les boucles temporelles. Et ça tombe bien, la gestion du temps est fondamentale dans Majora. Elle est à l'origine du jeu, c'est un titre qui a été développé en 1 an et demi. Elle est au centre des thématiques, la fin du monde, le côté un peu histoire sans fin. Et la gestion du temps est aussi au centre du gameplay. C'est une boucle de 3 jours qui se répète. Quand on joue à Majora, notre ressenti et notre état d'esprit seront donc directement reliés à cette gestion du temps. On sera stressé et on aura la pression, car si on ne termine pas ce qu'on a amorcé dans un cycle, on perdra presque tout et il faudra tout recommencer. Et en fait, si on prend du recul, Majora, je me demande, est-ce que c'est pas une sorte de roguelite scénarisé? Ouais, on recommence sans cesse le même jeu, en ne conservant que les objets clés qui nous permettent d'avancer un peu plus à chaque tentative, et comme dans certains roguelites, une fois un gros donjon terminé, il sera possible de le sauter et de ne pas le refaire pour avancer dans la trame principale. Finalement, Nico, roguelite Majora, tu crois pas?
Oui, ça me paraît très pertinent comme
illustration. Et hors roguelite, quand on évoque des jeux articulés autour d'une boucle temporelle, on pense forcément à Deathloop, Lightning Returns, le 3e épisode de la trilogie FF13, Outer Wilds, bien sûr, Nico, toi, t'as d'autres titres qui te viennent en tête qu'une
tout à
cité,
fait.
Cité oubliée.
Alors là, pour le coup, c'est préparé parce que j'ai oublié le titre. J'avais eu un coup de cœur, moi, il y a deux ou trois étés pour The Forgotten City, qui est dispo sur console et PC, où justement, tu vas vivre, tu t'es transporté dans l'époque de la Rome antique, dans un village, dans une ville coupée du monde, en fait.
Gros coup de cœur.
Et voilà, et tu vas devoir recommencer aussi un cycle pour mener une enquête, tout bêtement.
Il y avait ce délire, hein, de...
Et qui est génial. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'aime pas du tout, moi, les jeux à chrono, en fait, parce que ça te met une pression, j'aime pas jouer stressé. Mais il y a des jeux que j'adore qui ont ça, donc Majora's Mask, Outer Wilds aussi, qui je dois passer outre ce truc-là pour apprécier le jeu.
Même si Majora, c'est pas exactement comme Outer Wilds. Outer Wilds, c'est ce qu'on appelle maintenant un Knowledgevania, un jeu dont le savoir est la clé. Dans Outer Wilds, vous allez devoir refaire 10, 20, 100 fois la boucle, mais une fois que vous avez trouvé les informations nécessaires, vous pouvez terminer le jeu en une fois, en un cycle. Mais Majora, c'est un peu différent, car même si à la fin on termine aussi le jeu en un seul cycle, avant ça, on a dû collecter, non pas du savoir, mais des objets. Là où dans Outer Wilds, on ne cumule que du savoir, on ne cumule que des informations. En fait, Majora, c'est un jeu plutôt linéaire en réalité. On terminera tous les quatre mêmes donjons dans le même ordre. En revanche, la façon d'occuper notre temps entre ces quatre donjons, ça sera très différent entre chaque joueur. Et finalement, je pense que c'est ça le plus important. C'est sur cette question de l'occupation du temps qu'il faut se questionner. Dans Majora, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Qu'est-ce qu'on fait pour l'occuper? Comment va-t-on s'organiser? Nico, tu te rappelles, toi, comment tu jouais à Majora? Très organisé? Est-ce que tu flânais? Est-ce que tu... Même si le temps, tu vas pouvoir nous en parler tout à l'heure, le côté stressant, mais tu te rappelles de comment tu jouais?
Alors, j'essaie d'être du genre organisé comme joueur en général, mais bon, t'as les premiers temps où tu vas un peu découvrir et lancer un peu toutes les quêtes. Donc, après, voilà, il faut avoir une espèce de rigueur pour dire, ben là, pendant mon cycle, je vais me consacrer à ce truc-là. Mm-hmm. Mais il y a surtout l'agenda, en fait. Je pense que tu vas en parler.
Des bombers, qui aide. Parler,
ben, l'agenda, c'est tout bêtement quelque chose dans le menu qui va permettre de comment dire,
d'organiser.
Ouais, voilà, de marquer en fait certains événements pour ne pas que tu te les rappeler toi-même, quoi.
Avec justement l'heure, le lieu, etc., etc. Je l'ai dit, se frotter à son top 10, c'est un peu explorer ses obsessions. En refaisant les jeux, ben, on voit des faisceaux converger vers des choses qui nous tourmentent. Et le temps fait partie des choses qui m'intéressent. Alors, ça me fait pas peur du genre j'ai peur de vieillir ou de mourir, mais dans les jeux vidéo, j'ai remarqué que j'étais fasciné par la gestion du temps. J'aime être en grande difficulté face à une pression temporelle pour pouvoir justement la contrôler et m'en sortir.
Tu devrais travailler aux impôts, je pense.
Là, parce que je trouve que c'est rassurant de maîtriser le temps. Du coup, d'incarner un petit peu ce qui te fait le plus peur, c'est...
Okay.
Mais Majora, en fait, il va falloir dompter le temps sans pour autant le stopper. Il va falloir gérer nos nerfs pour se calmer, mais pour calmer aussi la menace du temps. Et ce qui est beau dans Majora, c'est que ce sont les systèmes qui vont nous permettre de maîtriser le temps. Pour gérer notre temps, la première chose qu'on peut faire, bah, c'est ralentir. Le ralentir pour moins stresser. Tu fais le champ du temps inversé, hop, et tu ralentis, t'as 3 heures sur 64 pour le faire. C'était un peu moins sur 3DS. On peut aussi mettre nos rubis en banque pour ne pas les perdre une fois un cycle terminé. Il est aussi possible de débloquer des raccourcis et s'assurer que l'accès à un donjon reste ouvert. Quand tu vas choper aussi l'objet clé de chaque donjon, bah, c'est un checkpoint pas négligeable. Et dans chaque objet clé de ces quatre donjons, c'est que des flèches de lumière, de feu et tout. C'est pas,
ouais,
c'est que des flèches.
Putain, j'avais oublié ça.
S'occuper de tout ça à chaque cycle, c'est très stressant, mais c'est normal. Et c'est le but dans Majora. Tout ça nous déstabilise et c'est normal aussi. C'est un petit peu comme dans Tenet, le film de Nolan. On est déstabilisé parce qu'on n'a jamais été confronté à ce rapport au temps. C'est-à-dire, dans le film de Nolan, c'est vivre dans un monde avec le temps inversé. Perso, moi, c'est jamais arrivé, donc je trouve ça un peu déstabilisant.
Moi, oui, mais j'ai pas le droit d'en parler.
De la même manière, si Majora nous désoriente autant, c'est parce que dans un jeu vidéo, on est habituellement maître du rythme de l'aventure. Le plus souvent, rien ne nous empêche, en tant que joueur, de ralentir le rythme de l'aventure, voire de le ruiner en flânant, en faisant des quêtes annexes, alors que c'est la fin du monde. Exemple, tous les RPG. Alors que la Terre est en train de brûler, toi, tu peux te permettre de faire des quêtes
annexes. Oui, il y a toujours eu cette dissonance où t'as tous les PNJ qui disent « Ah mon Dieu, vite, dépêche-toi !» Et toi, tu fais « Ok, attends, je vais aller faire la chasse au chocobo, là. »
En revanche, dans Majora, tu ne peux pas ralentir le rythme du jeu. Et même si tu choisis de ne rien faire, de rester posé, immobile, le temps s'écoulera. Chaque PNJ déroulera son planning et la lune finira par s'écraser sur Termina. Le temps est un facteur inhabituel à prendre en compte dans Majora. C'est ça la différence avec la plupart des autres jeux. Pour faire avancer l'histoire, il ne faut pas simplement se rendre dans un certain lieu ou parler à un personnage en particulier, comme c'est le cas dans tous les jeux, non. Dans Majora, il faut prendre en compte le temps, il faut avoir un planning, il faut se tenir un agenda. Pour que l'histoire du jeu avance, il faut donc se rendre à un endroit précis pour parler à un personnage désigné, et ça, à une heure définie, car Majora's Mask prend en compte un facteur peu commun, ce fameux facteur temporel. Et rares sont les exemples de jeux à s'appuyer sur le temps de la même manière. On peut citer Dead Rising, qui va aussi générer une forme de stress. Or, c'est pas une aventure construite autour d'une boucle temporelle, mais on va devoir se rendre dans des lieux précis, à des heures précises, et comme on peut pas se dédoubler, ben, on va devoir faire des choix. Nico, je crois que Dead Rising, il incarne toi aussi pas mal cette peur du...
Je déteste ce jeu. Non, mais j'en vois les qualités, mais effectivement, comme tu le dis, il t'oblige tellement à des choix drastiques et tu sais que tu pourras pas tout voir dans ton premier run et que forcément ça va mal se passer, en fait, que ça m'énerve de ouf. En fait.
Et t'as vraiment dans Dead Rising la pression du rendez-vous que tu vas manquer parce que t'es à la bourre et... Les choix que tu fais dans Dead Rising, c'est souvent sauver un enfant ou sauver une mère de famille. Oui. Et tu fais des choix et tu sais que tu vas être à la bourre, tu sais que tu n'y arriveras pas. Donc vraiment, la pression...
C'est un peu le jeu de l'échec, en fait, obligatoire.
C'est ça, parce que... Alors, en règle générale, et ça depuis toujours, la saga Zelda, elle est avant-gardiste. C'est une série qui a fait avancer le jeu vidéo. Elle a toujours été dans l'exploration des possibles. Elle a défriché la notion de liberté avec Zelda 1. Elle a révolutionné le jeu en 3D avec Ocarina of Time. Elle a réinventé le monde ouvert avec Breath of the Wild. Alors, dans Tears of the Kingdom, c'est l'inventivité du joueur qui est sollicitée. Il y a même eu des tentatives avec la gestion de l'espace et le motion gaming avec Skyward Sword. Alors, c'était pas hyper concluant, mais ils ont tenté. Mais la dimension qu'on oublie souvent, c'est le temps. Et Majora est le premier à l'avoir exploité, avec autant de talent. Alors, le jeu nous fait appréhender le temps, nous l'a fait maîtriser. Mais est-ce que lui, il a bien traversé le temps? On l'a vu dans Majora... Le temps est un ennemi à dompter. Cette peur, elle est représentée symboliquement par la lune. Mais la vraie peur pour le joueur, c'est la perte de sa progression, et donc une perte de temps. C'est la perte la plus violente qui soit pour un joueur. En fait, c'est un peu la même chose avec les Souls, quand on perd 100 000 âmes. Quand tu perds 100 000 âmes, t'es pas dégoûté d'avoir perdu ces âmes. T'es deg parce que t'as perdu le temps nécessaire de les accumuler. D'ailleurs, comme pour les jeux FromSo, est-ce qu'on pourrait pas parler de barrière d'accessibilité pour Majora's Mask? Je m'explique. Par exemple, Ken, il a abandonné le jeu Majora's Mask quand il a remarqué qu'il n'aurait pas le temps de terminer le premier donjon dans le temps imparti et qu'il devait tout refaire. Le jeu, Majora's Mask, il est très exigeant. Non pas qu'il soit difficile, mais il est exigeant sur le temps qu'il demande et cet investissement peut être considéré comme un frein. Ce manque d'accessibilité, c'est une question qu'on peut se poser en 2023. Mais c'est quelque chose qui n'a absolument pas été débattu en 2000, lors de sa sortie. Et pourquoi? Pourquoi ça n'a pas été débattu? Qu'est-ce qui a changé depuis? Ben, ce qui a changé depuis ces 23 ans, le temps a passé. Le jeu vidéo est différent et les joueurs, en partie, ceux qui ont joué à l'époque, eux, ont grandi. Et actuellement, l'une des grandes tendances de l'industrie, c'est le confort de vie. Le confort de vie, c'est nous proposer sans cesse des raccourcis dans les menus, des points de téléportation dans les cartes, que des options qui nous font gagner du temps. Dans Majora, à la base, on ne pouvait pas sauvegarder au milieu d'un cycle. Et une session de jeu minimum, c'était une heure quand on jouait 64. Alors, tu pouvais choisir de revenir dans le temps et sauvegarder à ce moment-là, mais on va dire que, grosso merdo, je voulais pas le dire, pourquoi. On va dire que tu disais, bon ben là je me lance Majora, c'est minimum une heure. La version 3DS, elle a un petit peu corrigé le tir, mais elle a tué par la même occasion l'intérêt et le sel du jeu. Et en parlant de boucle temporelle et de cycle qu'on ne peut pas couper, est-ce que ça te fait pas penser à un autre jeu de mon top 10 que j'ai pas cité plus haut? C'est Returnal.
Évidemment.
Mais Returnal, pour lequel, qui a été très critiqué à sa sortie parce que justement tu ne pouvais pas couper un cycle. Les gens ont demandé une safe state et il a été patché par la suite pour justement proposer aux gens de ne pas uniquement compter sur la mise en veille de la PS5, chose qui m'est arrivée. Moi, j'ai perdu un run parce qu'il y a eu une coupure d'électricité, donc qui montre bien qu'il fallait proposer aux gens une façon de couper ce cycle.
On en revient à la singularité qui est à double tranchant, quoi.
Ouais, exactement. Refaire Majora en 2023, franchement, c'est vraiment pas simple. Il faut vraiment s'y investir. Il faut vraiment investir du temps, justement. En tant que joueur, on n'a pas le même emploi du temps qu'en 2000. Nous ne sommes plus des collégiens, nous n'avons plus le même quotidien. Le temps est précieux, et pour tout le monde, et c'est la ressource pour laquelle tout le monde se bat. Les consoliers, les éditeurs, les plateformes de streaming, tout le monde se bat pour le temps. Et c'est pas pour rien que le modèle à la mode dans le jeu vidéo, c'est le jeu service. Ces jeux qui nous gardent captifs et qui absorbent tout notre temps. Et avant eux, hein, les MMO. Aussi, il faut savoir que le temps d'attention moyen des gens est en chute libre, hein, moi le premier, une attention qui est focalisée sur les réseaux sociaux avec des boucles d'intérêt toujours plus courtes. Dans le monde d'aujourd'hui, on doit tout faire rapidement. L'information circule vite, on se déplace plus vite, absolument, tout doit aller vite. Et Majora dans tout ça, clairement, franchement, le jeu il est incroyable. Il est radical dans ce qu'il propose, il est original, il est singulier. Mais il n'est clairement plus adapté au monde d'aujourd'hui. Et finalement, c'est le temps qui aura eu raison de Majora's Mask.
Triste.
C'est beau et triste. C'est comme la quête de caféine.
Est-ce qu'il y a... Ouais, c'est un peu ça. Et quand on parle un petit peu de jeux, de nouvelles tendances ou de nouvelles façons de jouer, il y a des jeux qui ont justement joué sur ce cycle et qui sont plus adaptés à l'actualité. 12 minutes, on l'a pas évoqué tout à l'heure. La boucle de temps qui se répète, elle est de 12 minutes. Donc, elle est plus adaptée aujourd'hui.
Ouais, et que tu peux même accélérer ou pas, je crois, à un moment. Bon, c'est dommage que le jeu soit nul. Mais...
Outer Wilds, on l'a pas dit, mais la boucle, justement, qui se répète, elle est de 21 minutes. C'est beaucoup plus court. Le succès, peut-être, des roguelikes, aujourd'hui, ces boucles courtes qu'on répète, bah, c'est aussi ça, je pense. Tu as évoqué, et tu m'y fais penser tout à l'heure, Dishonored, qui avait cette volonté de nous faire un jeu entier avec un choix, avec des choix. Comment on dit, tu sais, quand t'avais une barre, t'es gentil ou méchant, les jauges de moralité.
Moralité.
Ça se fait de moins en moins, ça, parce que tu vas pas demander à un joueur de te taper un jeu de 10, 20, 30 heures avec une moralité désignée. Et si tu veux découvrir tout le reste, bah tu te refais le jeu. Non, maintenant, il y a des solutions qui ont été apportées pour justement explorer l'ensemble des jeux de façon plus ramassée parce que bah, c'est le temps aujourd'hui qui joue contre nous.
Ouais, et c'est marrant, et ça me fait penser à un autre de tes jeux dans ton top 10, c'est Shenmue, ouais. qui est sorti à peu près en même temps que Majora's Mask et qui aussi montrait une ville cadencée par des horaires, des plannings, en fait, où chacun avait son emploi du temps et tout. Et pour autant, Shenmue, c'est une ode, justement, au prendre ton temps, au chill.
Exactement.
Quoi. Alors, évidemment, t'avais un moment où on te disait, bah, là, t'as game over parce que t'as pris trop ton temps, mais fallait vraiment passer sa life dessus.
Tu te fais des boîtes par Inessan aussi.
Mais c'est malgré ces contraintes-là, c'était un jeu qui encourageait à la contemplation, au chill, à prendre son temps. Et c'est ce que j'aime aussi chez Shenmue, quoi.
Et c'est très cool que tu parles de Shenmue parce que vraiment, là, plus j'avance dans ce top 10 all time, plus je me dis, ça arrivera où je ferai une chronique pour un peu faire une, tu sais, psychanalyse, autopsychanalyse parce que c'est dingue. Tu vois les faisceaux et là, Shenmue, le planning, machin, je fais, ah, mais en fait, t'es un gros taré, quoi.
Oui, mais moi qui te connais bien, ça m'étonne pas tellement. Hein.
Ouais, sur mais bon, tu vois. Sur le côté taré.
Non. Sur le côté organisé, timé, machin.
Est-ce que, pour finir, ce rapport au temps, toi, je sais que t'aimes pas du tout ces jeux qui te pressent, qui te stressent, même dans les Resident Evil, tu vois, j'en parlerai dans la chronique finale. Moi, RE1, qui est dans mon top 10 all time, il avait pas une forme de stress timé, mais il avait une autre forme de stress, et toi, ça te saoule, ça fait, tu vois,
alors,
ça te...
Me dire qu'on peut m'enlever une demi-heure de jeu parce que j'ai pas sauvegardé et qu'un Hunter, il m'a coupé la tête, ça m'en ouf aujourd'hui. Aujourd'hui, 5 minutes, tu me demandes de refaire un truc que j'ai fait, ça m'a pris 5 minutes, je suis deg.
Donc, t'es d'accord pour dire que la perte la plus violente pour toi, c'est le temps, c'est ça, c'est...
Ouais, bon, je suis peut-être un peu trop hardcore là-dessus.
Ouais, je pense que t'es peut-être aussi représentatif des joueurs actuels qui ont pas de temps à perdre, peut-être avec,
ouais, avec, mais c'est un vrai game over. Ouais. Un jeu comme Majora où tu me dis une session, je peux pas jouer comme ça, faut vraiment que je prenne le temps, que je me libère à une plage d'une heure et tout. C'est pas ce qui me fait, qui me donne envie en général. Mais je trouve quand même que le jeu, il reste, tu en as parlé, mais ouais, super novateur pour l'époque et enfin, ce qu'il a proposé, c'est incroyable, quoi.
Et toute la vague de jeux qui jouent sur la temporalité, que je sache, c'est le premier. Et on a parlé tout à l'heure d'investissement de temps, et tu viens de le dire, c'est pas juste une heure que tu t'es dégagé pour Majora, c'est un investissement psychologique. Ouais. C'est que tu te dis, là, je me lance dans Majora pour minimum une heure ou plus, mais je vais m'investir psychologiquement.
Tu sais déjà quels seront tes objectifs, ce que tu dois accomplir pendant ce temps-là.
C'est pas, tu vas pas jouer à chill en disant, je vais faire ci ou je vais faire ça. Donc c'est vraiment, c'est pour ça presque que je parle de frein, d'accessibilité, parce que aujourd'hui, c'est pas un jeu qui est contemporain, ça marche pas, il demande trop d'investissement.
Ouais, mais alors là, je vais un petit peu loin, mais est-ce que c'est pas ça aussi d'une manière ou d'une autre qui a conduit à cette mode des, ce qu'on appelle les jeux un petit peu boulot?
Ouais.
Où c'est des jeux où tu vas faire un peu comme des contraintes finalement que t'aurais pas envie de faire en jeu, mais avec, comme le boulot aussi, pareil, toujours pareil, cette gestion du temps, de faire des choses qui sont un petit peu laborieuses ou quoi.
Et... Ouais. Le côté besogneux.
Ouais.
C'est vrai que, moi j'aime bien ça aussi. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce côté faire un truc un petit peu carré. Donc voilà pour cette chronique top 10 all time sur Majora. Petit point sur le totem, parce que le but c'est justement de le faire évoluer très rapidement. Et la Ken, il nous a fait un beau visuel si vous nous regardez ça sur YouTube, comme c'est magnifique. Donc en première position, il y a Final Fantasy VII qui n'a pas bougé.
Il ne bougera jamais.
En 2 et 3, on sait pas. Trou. 4, Shenmue. Alors lui, il est monté fort. Hein. En 5, Chrono Trigger, il est monté aussi. En 6, Returnal, c'est son entrée dans le top. En 7, Majora's Mask, lui, est descendu. Il est descendu fort en plus, hein, parce que je crois qu'il était 3 ou 4e à la base. Et Resident Evil Rebirth, il est descendu. Et donc en 9 et 10,
on a deux trous, deux inconnus. Il reste donc quatre places et je peux au moins vous dire que d'ici la fin de l'année, il y aura deux nouvelles chroniques top 10 all time parce qu'il y a une actu là cet été avec du JRPG qui ressort sur Switch et une compile avec un certain serpent qui revient. Donc voilà pour ce petit topo et ce petit stop top 10 all time qui
ce
continue.
Fil rouge qui s'éteint mais fait plaisir.
Je sais pas. Franchement.
Tu pensais te lancer dans un truc aussi longue haleine?
Je sais pas. À la base c'était juste que je voulais trouver un moyen de refaire les jeux que je kiffais parce que j'aime bien et finalement ça va faire peut-être plus de 10 épisodes parce que j'aimerais aussi traiter des jeux qui vont entrer. Returnal je l'ai largement fait en chronique donc ça suffit mais qui peut rentrer potentiellement et puis j'espère que ça sera intéressant peut-être faire un point à la fin en disant ouais alors mec t'as mis que des gens ils ont des masques et puis ils font des tours sur eux-mêmes dans des boucles de temps, t'as un vrai problème, consulte. Donc on verra bien, alors peut-être ça sera dans un an et demi, deux ans, je sais pas voilà. Combien de temps va durer cette chronique. En tout cas voilà, les Red Alert c'est la fin de cette saison 3, merci, ça faisait quand même plaisir, merci à vous
merci
d'être toujours plus nombreux, toujours plus fidèles, merci pour les likes, les pouces, les notes sur les applications d'écoute de podcast, ça fait ultra plaisir. Merci pour le soutien sur YouTube et Spotify vidéo. C'est vrai que le format est pas adapté sur YouTube parce que c'est deux mecs qui se parlent et Ken fait un travail de ouf pour rendre ça le plus attrayant. Mais on voit quand même que vous nous soutenez et ça fait super plaisir.
Vous êtes trop gentil, c'est cool.
Vous êtes vraiment trop cool. Merci à tous, merci à l'équipe. Hein, on fait la bise à Ken, à Damien et à Ludo. Alors, franchement, peut-être que vous aimez nous écouter, mais sûrement vous aimerez nous lire. Et alors, on avait peut-être quelque chose à vous montrer. Ça sera cet été. Il va y avoir des petites surprises sur cette punchline. Tu vois pas de quoi je parle?
Non,
ça se met dans des livres pour savoir où on s'arrête, justement. Tu sais, quand tu lis, tu t'arrêtes.
Ah oui, d'accord.
Et donc, voilà, on a des bouquins.
Oui, en plus, c'est les soldes en ce moment sur notre site. Donc, n'hésitez pas. Il y a plein de vieux livres qui sont à moitié prix, donc c'est cool.
Et si vous voulez un autre indice sur le top 10 all time, il y a un Bat & Kaitos. Et on sort un Ludothèque Bat & Kaitos, donc qui était le dossier de Jay sur Level Up 1. Level Up 1 qui est en rupture de stock depuis des années maintenant. Voilà, on l'a ressorti parce qu'il y a de l'actu, parce que c'est vous proposer ce dossier qui était génial et qui était perdu dans les limbes parce qu'on ne réimprimera pas les Level Up. Donc c'est dispo dans un nouveau format, gratuitement. Si vous êtes premium, c'est gratuit. C'est
voilà, avec cette couverture aubergine.
Donc je ne te pose pas la question qu'est-ce qui se passera la semaine prochaine. Non. Parce que la semaine prochaine, c'est un sort d'émission, après un sort strike, après un EX. On ne vous lâche pas tout l'été. On sera dans vos oreilles et nous, on se retrouve, seconde semaine d'août pour un nouveau Red Alert. Allez, bye bye.
Bye bye.